Depuis que l'on compose, joue et enregistre de la musique, on a créé des millions d'œuvres parmi lesquelles surgissent parfois des pépites. Des phares. Oui, des phares. Vous savez, ces grandes tours lumineuses qui éclairent, qui guident, et qui, au milieu des ténèbres et du chaos, nous montrent le chemin. Alors un phare, on le voit de loin, dans le noir, on ne le découvre qu'en s'approchant. Il décrit les sinuosités de la côte, il révèle les mystères qui se cachent parfois derrière lui. Un phare, c'est un pont entre l'inconnu et la révélation de la beauté. Et quand on arrive à ses pieds, quand on le visite, quand on grimpe dans ses étages, tout en haut, on voit loin, on admire la perfection de l'horizon. Aujourd'hui, dans Des potes et des albums, nous évoquerons l'un de ces phares musicaux qui siègent aux côtés de La Flûte Enchantée, du Sacre du Printemps, de Sgt Pepper ou Histoire de Melody Nelson. Nous allons vous faire découvrir ou redécouvrir un monument de la musique, une œuvre qui a marqué pour longtemps nos oreilles et nos âmes. Et cette heureuse exploration, je la dois à mon pote Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Eric.
Alors Jean-Marie, on est potes depuis un an et demi, après que j'ai rejoint le big band de jazz dans lequel tu joues du saxophone alto. Alors, on n'est pas potes au sens intime du terme, on se connaît finalement assez peu, mais j'ai souhaité te faire participer à Des potes et des albums, car à l'occasion des concerts que l'on donne avec notre big band d'intermezzo, que l'on salue, c'est toi qui souvent est chargé d'annoncer les morceaux, donc entre chaque morceau, tu fais des petites annonces avec des textes que je trouve moi joliment écrit, avec des anecdotes, et qui, pour moi, montre ta passion pour la musique en général, et le jazz en particulier. Donc un grand merci d'être ici, et je te laisse la main pour nous annoncer quel album tu as choisi.
Eh bien, j'ai choisi Kind of Blue, de Miles Davis. Alors, j'ai bien aimé l'introduction d'Eric, parce que en fait, chose à laquelle je n'avais pas pensé, lui a évoqué déjà un phare. Donc un phare, pour moi, c'est quelqu'un qui va être en vigie, peut-être dans la tempête, mais ce dont il a parlé, c'est également un pont. Et c'est vrai que ce pont, moi j'adore l'océan, je passe énormément de temps proche de l'océan, et l'arrivée sur un pont au-dessus de la mer, en vue d'une île, c'est magnifique. Et cet album, c'est un peu ça pour moi. C'est vraiment une source de quiétude, une source de calme, de repos.
Ouais, tout à fait.
C'est magique.
Ouais, et j'ai l'impression que le choix était assez évident pour toi.
Il n'y avait pas d'ambiguïté parmi les énormément d'albums, que ce soit de Miles Davis ou d'autres de ces colistiers qu'on va voir aujourd'hui. Coltrane, par exemple, j'aurais pu choisir un album de Coltrane, hein, qui sont absolument magiques. Mais celui-là, pour moi, il remplit toutes les cases.
Bon, bah, très bien. Eh ben, arrêtons de baver d'envie et on va tout de suite lancer un premier extrait. Alors, on va parcourir l'album dans l'ordre des titres. Il y a 5 titres. Et le premier, le plus connu peut-être, So What. D'écouter un extrait de So What. Alors c'est un morceau hyper connu du répertoire du jazz qui a été repris des centaines de fois. Est-ce que c'est par ce morceau-là que tu connais cet album ?
Oui. C'est vraiment la première écoute que j'ai eue. Je ne me souviens peut-être même plus du moment où je l'ai entendu la première fois.
Oui.
Mais ce que je sais, c'est que je me suis arrêté.
D'accord. Ouais.
J'ai entendu ça.
T'as scotché.
Oui, ça m'a complètement scotché parce que on commence sur quelque chose qui paraît très très anecdotique, un petit accompagnement de piano, un accord, deux accords, et puis Et puis chacun des participants commence à mettre un tout petit peu de sa connaissance.
Oui.
Et puis d'un coup, ça explose en douceur.
Ouais.
Je peux pas te dire autrement. Ça explose en douceur. Et puis le thème à la trompette arrive. Et là, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça?
Oui.
C'est vraiment quelque chose où je me suis dit bon, il faut aller plus loin dans l'écoute de ces morceaux, dans l'écoute permanente. Donc j'ai évidemment sauté sur le disque à l'époque, hein, CD. Oui.
C'était à quelle époque à peu près?
Oh, c'était au milieu des années. Oui, peut-être. Alors sur cette réédition-là, c'était peut-être milieu des années 90.
Ouais, d'accord.
Ça devait être une réédition comme ça, sur laquelle en fait j'ai pas fait de choix particulier. Hein. Grosso modo, je suis allé dans une grande enseigne de musique et puis.
Tu écoutais déjà du jazz, peut-être?
Oui,
d'accord.
Fait.
Okay.
Ouais. Ouais. Ouais.
Alors, c'est un album Kind of Blue qui date donc est sorti le 17 août 1959. Et à cette époque-là, Miles Davis est déjà une immense star. Alors, ce qui fait avec cet album et qui est intéressant d'un point de vue un peu plus musicologie, je vais pas être trop long là-dessus, mais j'ai quand même envie de donner quelques billes. Il poursuit son travail initié dans l'album précédent qui s'appelle Milestones et qui est ce qu'on appelle le jazz modal. Alors, je vais faire un rapide point sur les sous-genres du jazz, qui me paraît important ici. Dans les années 40, le genre dominant s'appelle le bebop, qui est caractérisé par des tempos rapides, des harmonies très complexes, des improvisations à toute vitesse. C'est un peu des jeunes fous à l'époque, hein, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, tout ça. À partir des années 50, ils vont se calmer un petit peu. On a l'apparition du cool jazz, du hard bop. On simplifie les grilles harmoniques, les tempos ralentissent un petit peu. Et à la fin des années 50, donc notamment sous l'impulsion de Miles Davis, on voit apparaître le jazz modal, qui est vraiment une simplification à l'extrême des grilles harmoniques. Des fois, il y a un, voire deux accords, hein, ce qui est le cas de So What. Et avec un choix de notes vraiment très restreint pour les improvisations. Et donc, on voit ça souvent, l'image qu'on donne, c'est un petit peu des peintures avec des impressions, c'est vraiment comme tu l'as dit, et où on fait des tableaux d'ambiance, voilà. Est-ce que toi, tu as des périodes préférées dans tout le jazz que tu écoutes, ou vraiment tu n'as pas forcément de préférence?
Cette période-là, je dirais fin des années 50 jusqu'au moment où ça s'électrifie plus, donc notamment sous l'impulsion de Miles Davis, j'en raffole.
Ouais. Oui.
C'est vraiment extraordinaire, que ce soit Coltrane, que ce soit Thelonious Monk, c'est vraiment génial pour moi parce que là on a à la fois des leaders qui font leur disque, qui font leur œuvre, mais qui jouent également ensemble,
oui.
Qui s'invitent. Les quintettes, les sextettes de Miles Davis, on retrouve, je dirais, deux, trois personnes qui reviennent systématiquement, mais ça change tout le temps, ça échange énormément. On n'est pas, je dirais, dans la virtuosité sur la technique, par contre sur l'émotion, sur la profondeur, sur la recherche, sur l'échange, c'est pour moi c'est absolument extraordinaire et c'est pour ça vraiment cette époque est pour moi typique de ce qu'est le jazz moderne.
Ouais, tout à fait. Et ben c'est bien, c'est vraiment, alors tout ce que tu as dit c'est fabuleux parce que moi c'est aussi ma période préférée du jazz et je vois les choses vraiment de la même façon. On va passer tout de suite un extrait du deuxième titre qui s'appelle Freddy Freeloader et on va pouvoir comme ça parcourir notre exploration de l'album Kind of Blue. C'était un extrait de Freddy Freeloader sur l'album Kind of Blue de Miles Davis. Alors, Freddy Fellowder, ça veut dire Freddy le resquilleur. Alors Miles Davis l'avait composé en hommage à un ami à lui, un hommage clin d'œil. C'est un ami à lui qui n'achetait jamais son ticket de bus chaque fois qu'il se déplaçait dans la ville. Alors on a ici un blues mid-tempo avec une mélodie simplissime. Qu'est-ce que ça t'évoque, quoi, quand tu écoutes ce titre ?
Moi, c'est l'unisson déjà qui me plaît énormément dans ce morceau-là, parce que entre la trompette, les deux saxophones, puisqu'il y a un ténor et puis un alto, donc c'est un unisson très très tranquille, hein, mais qui donne la couleur du morceau. Et puis ce qui est aussi assez extraordinaire, c'est l'accompagnement du piano. En fait, avec l'unisson et la légèreté de cet unisson, on entend toujours le piano.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Toujours, toujours, toujours. Et quand il prend son solo, en fait, on se dit que c'est simplement une continuité sur son accompagnement. Mmh. Et dans, je crois, hein, dans tous les morceaux de cet album, le piano, je dirais, est encore plus présent que la basse sur la rythmique.
Oui. Mais il y a tellement peu de notes dans les thèmes, les mélodies, qu'en fait, il y a une place pour les instruments d'accompagnement qui est fabuleuse, ouais.
Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Pour l'ensemble des solos qui viennent, ponctuer les différentes parties, il n'y a pas besoin de s'accrocher, de se raccrocher, je dirais, à une phase de la rythmique. Tout ça coule tranquillement. Mmh. Et c'est vrai que c'est un album qu'on peut écouter, je dirais, à la fois dehors, par grand vent, pour reprendre l'image du phare, mais également tranquillement. Alors, soit avec l'âme tranquille, soit avec beaucoup de tumulte, mais chez soi,
ouais,
sans bouger.
Ouais, 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 tout à fait. Alors c'est vrai que Miles Davis, à un moment donné, lui, il considérait qu'il fallait vraiment simplifier au maximum. Il disait pourquoi, enfin je sais plus sa phrase exacte, mais il disait mais pourquoi jouer des millions de notes alors qu'il suffit de choisir les plus belles. Et il était vraiment dans cette recherche de simplicité, ce qui pour moi est un signe de virtuosité aussi. C'est-à-dire que la virtuosité, c'est pas forcément la technique et le jeu très rapide. J'aimerais qu'on parle un petit peu des musiciens sur cet album. Alors tu en as dit un mot tout à l'heure. Il y a dans ce quintet des musiciens vraiment très connus, John Coltrane au saxophone ténor, Cannonball Adderley au saxophone alto, Bill Evans au piano, un immense pianiste qui a longtemps collaboré avec Miles Davis. Alors sur un titre, il y en a un autre qui s'appelle Wynton Kelly, que je ne connais pas beaucoup, le batteur Jim Cobb et Paul Chambers à la contrebasse, alors qu'il a figuré, lui, sur une quantité d'albums de cette époque absolument incroyable. Je crois qu'on a la crème de l'époque, hein, je sais pas ce que tu en penses.
Oui, tout à fait. Alors, je dirais Coltrane, évidemment, hein, parce que sa carrière qui s'est quand même arrêtée, malheureusement, assez vite, du fait de son décès précoce, mais... C'est un musicien qu'on reconnaît immédiatement, oui. sur quelques notes. Et ça me fait penser à pas un film, mais un roman policier français que j'ai lu il y a quelques années, qui se passait dans les milieux des boîtes de jazz dans un port de Bretagne. Et le détective, un peu le style Marlowe breton, rentre dans la boîte de jazz... Et on a l'impression d'entendre la musique. Et dans sa tête, il dit Coltrane. Il a entendu trois notes.
Ouais, ouais, ouais. Et tout de suite, il sait où il va, quoi.
Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et c'est vraiment un musicien qui, lui, dans le blues, par exemple, pur et typique, est absolument extraordinaire. Qui également dans la virtuosité est monstrueux, hein. Il y a des improvisations et des prises alternatives qu'il a fait sur certains de ses disques. Il y en a un notamment qu'il a enregistré en 61 dans une boîte new-yorkaise là qui s'appelle le Village Vanguard. Mmh. Et c'est absolument extraordinaire. On a des morceaux qui durent 18 minutes.
Ouais.
Deux fois dans la même session et on a l'impression d'entendre la même chose, mais différente, quoi.
C'est ça.
C'est extraordinaire. C'est un peu ça qu'on va retrouver Mais là, il est en Sideman, hein, mais c'est ça qu'on va retrouver à chaque fois. Et je pense qu'il y a eu une réelle complicité avec Miles Davis.
Oui, oui, tout à fait.
Enfin, humaine.
Oui,
simplement musicale, mais humaine.
Oui, tout à fait, oui. Alors, les conditions d'enregistrement de cet album sont, pour moi, absolument incroyables. Il a été enregistré simplement sur 2 jours. Il y a eu 2 sessions, donc le 2 mars et le 22 avril 59. Il n'y a quasiment pas eu de répétition.
Paraît-il, oui.
Ouais, c'est-à-dire que Miles Davis est arrivé en session, il a donné une partition hyper succincte aux musiciens, il leur a donné quelques indications par rapport à ce qu'il voulait au niveau des improvisations, et c'est parti, quoi. Moi, je trouve ça impressionnant, je trouve ça fabuleux, et je pense que cette spontanéité, elle doit se ressentir quelque part quand on écoute ces morceaux.
Ah oui, c'est... On sent qu'il y a un lien très très fort entre ces différents musiciens, mais surtout, je pense qu'il y a un charisme de Miles Davis qui arrive sur quelques indications ou simplement sur la manière dont il aborde un morceau en le jouant lui-même, qui va entraîner le morceau vers quelque chose. Alors je pense pas effectivement que aucun ne savait où ils allaient.
Ouais. Mais ils se sont laissés porter par.
C'est ça.
Voilà.
C'est
avec, ça. Donc ça demande beaucoup de confiance entre eux.
On peut. Je pense qu'on peut rapprocher ça. Je crois que c'est la même année où Miles Davis a enregistré la musique d'Ascenseur pour l'échafaud.
Tout à fait. Avec le même processus créatif.
C'est ça. C'est ça. Ouais. Il avait des images.
Ouais.
Donc là c'était peut-être un peu différent. Mmh. Mais là et je pense qu'il a pu à la fois reproduire le même process et puis se passer des images que lui avait devant les yeux pour faire cet album. Mm. Parce que bon, Ascenseur pour l'échafaud, il est resté une nuit devant des images pour produire dans un seul jet en fait toute la musique. C'est extraordinaire.
Ouais, tout à fait. Ouais.
C'est extraordinaire.
Une des grandes particularités de Miles Davis, c'est que ces différents groupes étaient vraiment des pépinières à talent. Il montait souvent ces groupes avec de jeunes musiciens prometteurs, et la plupart se sont ensuite émancipés. Donc ça a été le cas de John Coltrane, bien sûr. Après, il y en a eu des dizaines d'autres, comme Herbie Hancock, Chick Corea, John McLaughlin. Toi, quelles sont tes grandes figures de jazz? Donc, Miles Davis, on l'a compris, John Coltrane. Est-ce, tu as aussi d'autres grandes figures que vraiment tu mets sur un piédestal?
Oui. Alors Charlie Parker.
Oui.
Bon, c'est aussi pour ça que j'ai choisi le saxophone alto. Alto.
Ouais.
Bon,
ouais.
Même si je dirais quand on commence à écouter Charlie Parker, c'est juste qu'on a le moral dans les chaussettes, quoi, parce que c'est absolument démentiel. Lui dans la phase du hard bop était sur des vitesses monstrueuse quoi.
Ouais,
quand on voit un 240 à la noire et puis des triples croches là-dessus, on se dit bon bah écoute, on va choisir on va choisir autre chose comme instrument. Donc là effectivement avec également une inspiration et puis une évolution qui a été magique. Bon, jusqu'à ce que la drogue le foudroie, comme beaucoup de musiciens à l'époque, et y compris Miles Davis. J'ai également en tête Thelonious Monk au piano. Bon, certains thèmes qui sont universellement connus comme Round Midnight.
Oui.
Bon, c'est assez extraordinaire la manière dont il a pu faire son œuvre tout en étant banni des boîtes de jazz.
Tout à fait.
Justement,
oui.
parce que il avait été arrêté pour possession de drogue.
Comme saxophoniste, peut-être Stan Getz ou
Oui.
Qui est une grande figure, un grand saxophoniste.
Oui, un grand saxophoniste. Oui. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que effectivement, Stan Getz, on a plutôt sa partie brésilienne en tête, mais effectivement, il a eu des participations à cette époque-là qui étaient tout à fait brillantes. Mmh.
Alors toi, tu as choisi le saxophone, tu t'y es mis plutôt tard, hein, t'étais déjà adulte.
Oui, bien sûr. Oui. Moi, j'ai commencé il y a 25 ans.
D'accord. Et alors, de ce que je me souviens, de ce qu'on s'était dit à l'époque, c'était tu t'y es mis pour une raison un peu particulière.
Ah oui.
Et si tu veux bien nous le raconter, parce que je trouve ça chouette.
Oui. Mon fils qui avait 6 ans ou 7 ans, avec ma femme, on s'est dit, tiens, on va lui faire une activité. bon, pas le foot, il voulait pas faire de foot, une autre activité. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre avec mon épouse musicien, mais on s'est dit, tiens, il y a une école de musique près de chez nous, on va lui demander de faire quelque chose. Il a choisi la clarinette, ok, ce qui est un instrument assez ardu, et puis comme tout musicien à 6 ou 7 ans, il a commencé le solfège. Bon, faut pas se voiler la face. Le solfège, c'est pas facile pour des gamins. Faire des devoirs à des gamins, c'est pas non plus facile. Donc moi, pour la première année de solfège, c'était pas très compliqué. J'ai regardé un petit peu comment ça se passait. J'ai voulu l'aider. Mmh. Et là, je me suis pris un fond de cours. Il m'a dit non, papa, non, tu peux pas m'aider. Tu peux pas me faire faire mes devoirs de solfège. Bah, pourquoi? Parce que toi, tu ne fais pas de musique.
D'accord. Ok.
Bon, donc j'ai dit bah d'accord.
Dans ce cas-là,
j'ai demandé à son prof de clarinette qui était également prof de saxophone de me donner des cours. Et ensuite je suis retourné voir mon gamin. Et je lui ai dit bah t'as vu hein, je prends les cours en même temps que José, ton prof. Mm-hmm. Et donc maintenant on va faire les devoirs
d'accord,
de solfège.
Super. Ouais.
Voilà. Ouais. Donc évidemment comme tout enfant à 6 ou 7 ans, il a su lire la musique avant de savoir lire des livres.
Oui, oui.
Donc là, effectivement, la différence entre nous deux s'est vue assez rapidement. Depuis, le deuxième a fait de la batterie, a fait de la basse. Donc je pense qu'un jour, on fera un petit ensemble.
Un petit ensemble familial, ouais. Et du coup, c'est chouette parce que 25 ans plus tard, tu joues dans un big band et tu joues la musique que tu aimes.
Exactement.
Et moi, j'adore ce genre d'histoire parce que ça tord le cou à une idée reçue qu'on ne peut pas se mettre à la musique une fois adulte. On entend ça encore trop souvent et c'est absolument faux. On va maintenant passer au troisième extrait qui s'appelle Blue in Green. Et alors là, on était déjà dans une ambiance feutrée avant, mais alors là, on s'enfonce encore un petit peu plus. Green, je te laisse réagir tout de suite.
Ce morceau, même après des centaines d'écoutes, j'ai toujours les poils qui se dressent.
Ouais, bah c'était exactement pareil, toi.
C'est une musique qu'il faut. Alors, c'est peut-être un petit peu technique, mais c'est comme pour bien respirer avec son instrument. Hein. On est tous les deux sur des instruments avant. Faut abaisser le diaphragme et puis se laisser envahir par l'air. Bah pour ce morceau-là, c'est pareil. C'est pareil et moi je l'avoue, hein, sans fausse honte, il m'est arrivé d'avoir des larmes qui coulent sur ce genre de morceau parce qu'en fait, on l'écoute pas avec la tête. Quand on est comme ça, on n'arrive pas à l'écouter avec la tête. Si on l'écoute autrement qu'avec la tête, avec le corps, on se sent envahi, effectivement. Alors quelquefois, ça provoque une joyeuse écoute, et d'autres fois, ça provoque une écoute plus mélancolique, qui est pas forcément triste, mais qui est voilà. C'est une impression générale. Ça m'arrive quelquefois au théâtre. Ça m'arrive quelquefois devant un tableau. Quand ça passe par les yeux, mais qu'on n'intellectualise pas le sujet, bah souvent ça provoque des émotions un petit peu bizarres.
Ouais, tout à fait. Ouais. J'aimerais qu'on parle un petit peu du son maintenant de cet album. Moi, je me suis fait une réflexion quand même. On est à la fin des années 50, donc c'était il y a 70 ans, quoi. Ils ont enregistré ça avec la technologie de l'époque et le son, il est absolument incroyable. Quand il y a vraiment une pureté. On entend vraiment, surtout dans ce morceau-là, la belle réverbération de la grande salle dans laquelle ils ont enregistré. Et comme quoi, la technologie ne fait pas tout, quoi. Il y avait vraiment des artisans du son à cette époque qui sont vraiment incroyables. En parlant du son en musique, est-ce que c'est une dimension à laquelle tu es sensible en général ?
Oui. Par ma génération, j'ai eu, dans les années, quand j'étais ado, hein, à peu près 70, il y avait l'arrivée des nouvelles chaînes stéréo à l'époque, du son qui était un petit peu enveloppant. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Je me suis remis il y a quelques années au vinyle.
D'accord, oui.
Où là, en fait, sur des enregistrements qui peuvent être à la fois modernes ou plus anciens, j'aime bien cette qualité un petit peu juste.
Oui.
Mais bon, qui provoque une écoute tranquille. Mais c'est vrai que si on entend ce disque de bout en bout, on n'a pas un défaut. On a des ingénieurs du son, je pense, qui étaient à l'époque très très attentifs à cette qualité. Bon, on peut se dire aussi que là, on est proche d'un espèce de miracle d'écoute, parce que effectivement, paraît-il, certains morceaux n'ont eu qu'une prise.
C'est ce qui se dit, oui.
C'est
oui.
Ce qui se dit. Bon, oui. En tout cas, sur 2 jours...
Je veux le croire.
Sur 2 jours, on peut pas avoir énormément de prises. On est sur un enregistrement qui a dû se dérouler de façon très, très, très tranquille, peut-être avec des pauses entre chaque morceau. Mais en tout cas, on est sur quelque chose de complètement détaché d'une production classique. Moi, je pense que cet album va rester dans la discographie de Miles Davis et du jazz en général comme très très proche du sommet.
Oui, tout à fait. Ouais. Alors, à titre personnel, moi, je suis pas très fan des ballades en jazz d'une manière générale. Assez souvent, je m'ennuie, je dois le dire, bien que j'adore le jazz. Mais alors, quand j'écoute Blue in Green, là, notamment, je l'ai réécouté, je sais pas, 5-6 fois, là, pour préparer l'épisode, là, je suis vraiment en admiration. Ça me donne vraiment l'impression, mais je crois qu'on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, d'un tableau, en fait, hein. C'est-à-dire que Miles Davis, il propose une grande toile blanche, et puis on vient poser ces petites couleurs, ces petites touches de couleurs, petit à petit, mais vraiment avec un grand calme, et c'est vraiment hyper agréable. Toi, en termes de jazz, est-ce que tu as des formes qui t'attirent plus que d'autres ? Est-ce que tu es plutôt balade, up-tempo, latino, plutôt blues, ou tu es vraiment éclectique
Alors, j'ai un spectre assez large, hein, mais je dois dire effectivement que quand on se rapproche du tempo blues, parce que en plus, ça permet de faire le pont avec... Je dirais toute la continuité de l'histoire musicale, enfin nord-américaine principalement.
Hein. Oui, ça, oui, c'est un socle.
Voilà,
hein. Oui,
voilà, qu'on parte des années 20 et puis qu'on en arrive progressivement aux branches de type rock, jazz rock, blues rock.
Il y a toujours cette racine. Oui.
Toujours cette racine. Oui, et de toute façon... On va retrouver le socle rythmique, hein, du blues.
Oui.
Et là on l'entend bien, hein, à la fois sur le piano, à la fois sur la basse. Et puis quand on a des cadors, ouais. comme Coltrane ou Chambers à la basse, on est sûr qu'on a une assise tranquille et qu'on voit effectivement à partir de ce qu'on a dans nos petits pots de peinture, on va pouvoir construire ce qu'on veut.
Et en termes de formation, tu as tes préférences ? Plutôt les petites formations, trio, quartet, ou les big bands, voire les artistes solo ? C'est pareil, tu as éclectique.
Disons, le quartet classique de jazz, effectivement, pour moi, est presque un idéal. Hein, donc la basse, la batterie, le piano et puis
et un soufflant.
Ouais, ouais. J'irai avec ça. On a quelque chose qui tient formidablement la route, mais j'irai une formation de type big band ou jazz band fin des années 30 et 40 me plaît beaucoup. Surtout, je dirais, surtout s'il y a un accompagnement vocal.
D'accord, ok.
Par exemple, bon, j'ai pas cité parce que là, on n'est plus tout à fait dans le même contexte, mais si on prend Billie Holiday, dans sa période où elle accompagnait de grands big bands, c'est extraordinaire.
Ouais, tout à fait. Quand on parle de jazz un petit peu comme ça, avec des gens au détour d'une conversation, c'est souvent une musique qui rebute un petit peu parce que elle paraît compliquée de prime abord. Si tu avais quelqu'un en face de toi qui aimerait découvrir le jazz, tu lui conseillerais de commencer par quoi ?
Par Kind of Blue. Ça paraît simple.
Oui.
C'est pas très difficile à expliquer puisque ça peut être juste une sensation ou une écoute, une vision. Pour reprendre ton image de la peinture, j'entends très souvent quand je vais dans les musées, dans des visites guidées, le guide qui dit mais attendez, regardez, ressentez ce que ce tableau vous évoque. Ne cherchez pas à intellectualiser le sujet. En plus, là, on est très simple. On est sur des morceaux qui sont quand même relativement courts dans le temps. On n'a pas forcément de solos qui vont durer énormément. On n'est pas comme dans certaines, concert de jazz où on va avoir un solo de batterie pendant 10 minutes, on va avoir la contrebasse qui va prendre pendant 5 minutes, tout ça pour se retrouver au bout de 20 minutes.
Ouais, oui.
Je comprends pour quelqu'un qui va commencer sur ce genre d'écoute, il va se retrouver un peu perdu, déstabilisé. De la même manière que quelqu'un qui va rentrer dans le classique va plutôt aller au départ vers du mélodique plutôt que vers du sériel.
Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Tout à fait, ok. On va maintenant passer au quatrième extrait de Kind of Blue qui s'appelle All Blues. C'était un extrait de All Blues, qui est peut-être le deuxième titre le plus connu de l'album en termes de standard de jazz, qui est une valse, donc c'est une particularité. On entend de temps en temps des morceaux à trois temps dans les standards du jazz, mais c'est pas si fréquent que ça. Alors, tu me diras ce que tu en penses après. Moi, c'est un titre, il faut absolument l'écouter au casque, parce qu'on a l'accompagnement des deux saxophones qui sont... avec un panoramique gauche-droite. Quand on écoute ça au casque, on a une dimension spatiale qui est énorme, avec cette harmonie des deux saxophones qui rend vraiment très très bien. Je sais pas ce que tu en penses.
Oui, c'est hypnotique.
Oui, voilà,
fait.
Hypnotique, tout à fait. C'est le meilleur mot.
C'est vraiment, c'est vraiment ce sujet. On se dit que les deux saxos, Coltrane et Cannonball Adderley, en fait, sont complètement unis. Ils font qu'un seul son. On retrouve un peu ce style de valse chez Coltrane. Il avait fait un album également avec Duke Ellington, sur le blues, et on retrouve ça. Et là, vraiment, on sent qu'ils peuvent partir pour très longtemps, en accompagnement. Donc là, je dirais pour un soliste comme Miles Davis, derrière, je vais être un peu trivial, c'est du gâteau.
Oui.
Hein, parce qu'il est sûr de son assise rythmique. Hein, en plus, là il a non plus deux assises avec le piano et la basse, mais il en a quatre avec les deux saxos. Donc ça permet d'aller tranquillement, et puis en fait on va dérouler cette hypnose jusqu'à en fait une fin qui est assez drôle, parce que il y a une baisse de son tranquille,
naturel, ouais,
naturel, ouais, il y a pas de fin en fait,
ouais, ouais.
Ce morceau il n'a pas de fin, juste l'ingénieur du son ou quelqu'un a dit bon bah là, allez, c'est fini.
Ouais.
On arrête.
On éteint la lumière.
Voilà, et puis voilà, on va aller se fumer une clope dehors tranquille, en attendant de faire un autre morceau. Ouais. On est vraiment sur, je pense, le miracle de la rencontre de tous ces musiciens, parce que arriver à un son de cette qualité artistique, hein, pas simplement technique, c'est génial.
Et je trouve que All Blues, il souligne particulièrement ce que tu dis, parce que finalement, dans le thème, il y a plus de notes à jouer pour les instruments qui accompagnent que sur le thème lui-même. Donc là, Miles Davis, dans sa recherche de simplicité, là, il l'illustre parfaitement. Il joue très peu de notes sur le thème, jusqu'au moment où, à la fin du thème, en fait, il participe à l'harmonie générale. Parce qu'en fait, les trois instruments avant se rejoignent pour des grandes nappes. Je trouve vraiment que c'est vraiment très chouette là, de la part de Miles Davis, de se mettre un peu finalement en retrait dans ce groupe et de se fondre parmi les autres.
Oui, je pense que dans tout l'album, hein, d'ailleurs...
Tu
dois le savoir mieux que moi, mais il doit avoir une utilisation quasiment permanente de la sourdine.
Oui. Ouais, j'ai pas fait gaffe à ça, mais oui, il la met souvent, mais
voilà.
Mais,
donc, je pense qu'il a voulu pouvoir être dans ce registre très très calme, très très sécurisant, hein, mais d'une rigueur absolue, hein, parce que quand on a déjà touché un instrument avant, on s'aperçoit que plus on va jouer d'une manière faible dans le son, plus il faut être précis dans l'accompagnement, dans l'attaque ou dans l'accompagnement.
Est-ce que toi, tu es en recherche de nouveautés ? C'est-à-dire que ce soit des albums de l'époque, est-ce que tu vas encore essayer de dénicher un album un peu rare d'un musicien dont tu as entendu parler ? Ou est-ce que tu es est-ce que tu es en recherche de nouveautés sur des choses actuelles dans les années 2000 et plus ?
Non, je suis à l'écoute. Alors, je suis pas forcément en recherche, hein, c'est pas forcément actif pour rechercher de nouveaux talents, mais par contre, pendant quelques années, j'ai été plutôt sur des interprètes en solo, au piano, souvent des femmes.
D'accord.
Hein, je prends par exemple l'exemple il y a quelques années de Diana Krall.
Tout à fait.
Je trouve qu'il y a un renouvellement dans le jazz actuellement, pas forcément sur des formations. Hein. Ou alors bon, on est plutôt dans un format un peu plus large, mais sur des interprètes solo, beaucoup de femmes. Je pense que c'est une partie de la musique qui commence largement à se féminiser, que ce soit en accompagnement vocal ou pas. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis actuellement, bon, on a quand même, en France, quelques grands noms, hein, qui se font jour. Ibrahim Malouf, par exemple, en ce moment. Donc là, on a des choses qui sont bien. Dans la partie nordique de l'Europe également.
Ah oui, hein,
si on prend les Suédois, les Norvégiens, les Danois, on a énormément de trios
D'accord,
là-dessus.
Ouais, d'accord.
Moi, je suis assez friand de l'écoute assez régulière de soit de FIP, soit de France Musique, soit de France Culture sur les parties jazz. Et là, il y a énormément de nouveautés, effectivement.
D'accord, très bien. On va finir maintenant avec le dernier morceau de l'album qui s'appelle Flamenco Sketches. C'était donc Flamenco Sketches, le morceau qui conclut Kind of Blue de Miles Davis. Alors là, vous l'avez entendu, on a un morceau lent, contemplatif, avec des très longues plages d'accords qui sont dressés comme on l'évoquait tout à l'heure, comme vraiment une belle toile blanche sur laquelle les musiciens viennent peindre dessus en toute liberté. Et on retrouve l'esprit du premier morceau de So What avec des très longues plages d'accords. Donc là, la logique modale de ce que voulait faire Miles Davis est vraiment très présente. Est-ce que c'est pas la meilleure façon de terminer un album de ce genre-là, Flamenco Sketches?
Peut-être.
Peut-être.
Oui, peut-être.
Ah.
Peut-être. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien cette version-là.
Ouais.
Mais effectivement, on aurait pu être. Pour moi, elle est moins émotive quand même.
D'accord. Par rapport à Blue and Green.
Oui.
Ouais.
Oui. Alors peut-être que le trop plein d'émotions était rempli sur les quatre premiers. Celle-ci, effectivement, elle paraît quand même plus écrite, même si elle fait partie de la même veine que les autres. Je me dis que peut-être il a voulu laisser la place à chacun sur une plage de temps un peu plus longue pour terminer l'album.
Alors ça, je me faisais la réflexion, autant Blue and Green, elle est à fond dans l'émotion comme ça, autant celle-là, elle est plus dans la méditation peut-être.
C'est ça.
Elle est, ouais, c'est pas le, ça évoque pas les mêmes images, ouais. Oui.
C'est ça.
Ouais.
Donc effectivement, ça paraît un peu, il est magnifique, hein, effectivement,
ouais, ouais.
Hein, mais il est plus intellectuel.
Peut-être, oui, oui. Ouais.
Il faut avoir vu le titre pour se dire ah ouais tiens ça y a une sonorité un petit peu arabo andalouse. Oui.
Peut-être qu'on l'entend
etc.
pas de la même manière quand on a intégré les codes harmoniques, les choses comme ça.
C'est ça.
Peut-être plus un morceau pour musicien que pour mélomane.
Oui, je pense.
Ouais, c'est possible. Ouais, tout à
je
fait.
Je pense. Hein, donc là, bon, je
ouais,
je,
non, c'est,
je
c'est des réflexions à haute voix comme
voilà,
ça.
Voilà, c'est
mais,
ça. C'est plutôt de la franchise hein, par rapport à,
ah bah
à
oui.
au ressenti.
Oui.
Hein. Mais effectivement, si on prend, j'irais ce petit ressenti personnel là-dessus, on est sur l'Himalaya du jazz quoi. Et de la musique en règle générale.
Oui, tout à fait. Ah,
donc
oui.
On sait que quand on va y arriver, on est dans la béatitude. Quand on va redescendre, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner.
Ouais.
Et pour moi, je mettrais ça en parallèle avec le concerto pour clarinette de Mozart.
D'accord. Ouais. Ouais.
Voilà. Moi, j'ai deux sommets.
T'as
c'est
deux sommets.
Celui-là et puis Kind of Blue.
D'accord. Est-ce que tu as vu Miles Davis en concert?
Non.
Non. D'accord. Ok. Bon, tant pis.
Non. Enfin, j'ai vu effectivement des retransmissions
vidéo,
ouais. etc. Non, je l'ai pas vu parce qu'en fait, à l'époque, quand j'étais une vingtaine d'années, lui était plus dans son.
C'était le jazz
dans
rock.
Dans son
là,
époque,
hein.
jazz rock,
ouais.
électrique.
Oui.
Bon, qui pour une entrée dans
assez austère.
Ouais. En matière était assez délicate, donc c'était pas mon monde musical.
Surtout qu'il avait la réputation en concert d'être difficile avec le public.
Oui.
Il tournait le dos, il jouait très très peu finalement. C'était.
Il a fait la courte échelle à des tas de gens à l'époque. On écoute également, il y a Joe Zawinul, on a John McLaughlin dont tu as parlé.
Marcus Miller qui était très jeune quand il a
commencé. Oui, c'est ça. On est étonné encore maintenant d'entendre certains musiciens et de comprendre qu'ils ont joué tout jeune avec.
Oui.
Avec Miles Davis,
ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais.
C'est vrai que lui a couvert Miles Davis de la fin des années 40 jusqu'aux années 90.
Oui, c'est immense. 2000, ouais, c'est immense. Et il a été à l'avant-garde de tous les sous-genres de.
C'est ça, il n'avait pas
60 ans. Ouais, ouais.
Il a pas voulu, épargner son temps ni son énergie sur quelque chose pour se construire une carrière. Mmh. Il est parti là où il a voulu.
J'ai même l'impression que quand un sous-genre commençait à devenir un petit peu à la mode, hop, ça y est,
il partait
et puis il laissait les clés du studio et puis il allait faire autre chose. Ouais. Juste avant de conclure l'épisode, j'aimerais juste dire que j'ai préparé cet épisode en écoutant une version de luxe qu'on écoute notamment sur les plateformes de streaming. Une version de luxe, ça veut dire qu'il y avait énormément d'autres pistes avec. Ce que je trouve vraiment chouette, c'est qu'il y a la présence d'énormément de chutes de studio. On entend les musiciens jouer des fois 30, 40 secondes, s'arrêter, commenter entre eux ce qu'ils ont joué. On entend le producteur en disant « Tiens, place-toi comme ça ». Miles Davis qui dit « Non, ça, on fait trop lent, il faut qu'on accélère » ou au contraire. Et on entend leur voix et c'est vraiment chouette, alors pas tellement d'un point de vue musical, mais ça nous met dans l'ambiance de l'époque, voilà. Jean-Marie, un très très grand merci à toi pour le choix de cet album que les connaisseurs adorent toujours redécouvrir, et puis on espère l'avoir fait découvrir à ceux qui ne le connaissaient pas, et on espère aussi qu'ils auront envie de se plonger dans l'œuvre de Miles Davis. Tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, je voulais te remercier, et puis... on va se retrouver très bientôt
en répétition.
Eh
ouais, tout à fait. Ouais,
voilà.
Ouais. Alors, je ne sais pas encore avec quelle régularité je publierai les épisodes de Des Potes et des Albums. Ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs qu'il est inutile d'énumérer ici. En tout cas, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, le plus beau des cadeaux que vous pourriez me faire, ce serait de partager cet épisode et d'en parler dans vos cercles d'amis mélomanes. D'ici là, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, je ne saurais trop vous conseiller de faire du bien à vos oreilles. Ciao !